Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC va débriefer la 8ème manche du championnat du monde en Autriche. Une course qui nous a régalé, il faut le dire, c'est le cas. On a pu être très critique avec cette nouvelle réglementation, mais pour le coup, ce week-end, on a retrouvé des choses qu'on aime vraiment en Formule 1 et on va revenir sur ce Grand Prix d'Autriche. On sait, et on le disait dans le warm-up, c'est un circuit qui est apprécié, c'est un circuit plaisant, très sympa ce Red Bull Ring. Il a tenu toutes ses promesses. La victoire pour George Russell qui est en train de revenir au plus haut niveau alors qu'il était au fond du saut il y a encore de cela 3 semaines. Tout va très vite en sport mécanique. Notre team principal, Jean-Luc Croix, arrête pas de nous le dire. Et ben, ça confirme tout ça. On a eu une bagarre avec des anciens qui nous a régalé. On a un pilote Ferrari qui est dans le dur. Bref, il y a tout pour faire un super podcast avec toute notre team des ingénieurs. Notre team principal est là, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Salut mon Nico et bonjour à tous.
Louis Gerbier à tes côtés pour t'épauler. Salut mon Loulou.
Salut tout le monde.
Formidable, salut le Louis.
Salut.
Je vous rappelle, les amis, qu'on sera présent tout l'été pour continuer à débriefer les courses, à vous proposer des warm-up, qu'il y aura également des podcasts qui sont prévus les semaines où il n'y a pas de Grand Prix. Donc pour tout suivre de l'actu Formule 1, ne rien perdre, ne rien oublier, les petites notifications. Et mettez-nous des petites notes tiens, sur les plateformes de téléchargement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, mais je vous rappelle que c'est ça qui nous permet de bien référencer le podcast et de vous proposer encore plus de contenu. Donc on prend toutes les petites notes que vous pouvez laisser sur les plateformes. Et puis je vous rappelle également la page Instagram Paddock RMC, vous avez toutes les infos qui tombent à la seconde près parce que Kylian Verhoeve, notre prod, est d'une réactivité sans faille. Ah, j'ai l'impression que c'est une Mercedes lui. Franchement, il tourne du feu de Dieu mon Kylian sur cette page Instagram.
Il y a des problèmes de fiabilité alors. Si c'est une Mercedes.
Non. Ouais, bon, ça va mieux. Bon, des fois, il peut y avoir 2-3 ratés, mais globalement, c'est très solide. C'est très solide. Les gars, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix d'Autriche. Le classement de ce Grand Prix d'Autriche, George Russell s'impose, 25 points pour lui, devant Max Verstappen qui termine à 1 seconde 6. Verstappen qui a retrouvé l'odeur de la victoire, on va bien évidemment en débattre. Andrea Kimi Antonelli complète le podium avec sa Mercedes, Oscar Piastri 4e, Lewis Hamilton 5e. Isaac Hadjar a pu se bagarrer avec les gros du championnat, les pilotes du top team, il termine 6e. Lando Norris 7e, Charles Leclerc décevant 8e et Racing Bulls place ses deux voitures une nouvelle fois dans les points aux 9e et 10e position, Liam Lawson et Arvid Lindblad. Pierre Gasly termine 13e, Esteban Ocon galère décidément cette saison, c'est dur pour Esteban, 16e, et ça a été un calvaire pour Cadillac qui a abandonné avec ses deux voitures, tout comme Lance Stroll et Carlos Sainz. Voilà pour le résultat de ce Grand Prix. Au classement pilote, 40 points de retard désormais pour George Russell sur Andrea Kimi Antonelli. Ça grappille du côté du Britannique. Lewis Hamilton est 3e, il est toujours en embuscade, 125 points, même s'il s'est fait dépasser par Russell. Piastri 80 points, Norris 79, Leclerc 79, Verstappen 73. Ça s'est extrêmement resserré entre la 4e et la 7e place. Et Isaac Hadjar a dépassé Pierre Gasly à la 8e position du championnat. Enfin, classement des constructeurs, 98 points d'avance pour Mercedes sur la Scuderia Ferrari. Il y a un vrai gap. Hein. Désormais, McLaren est 3e, Red Bull 4e et Alpine, un solide 5e. Voilà, on a toutes les infos après cette 8e manche du championnat du monde en Autriche. Les amis, je voulais revenir avec vous quand même sur ce qui a fait le sel de ce Grand Prix, mon Jean-Luc. C'est cette bagarre entre Lewis et Hamilton. Alors, il s'est passé plein de choses, hein, mais je voulais ouvrir avec ça, cette bagarre entre Hamilton et Verstappen. Ça nous a régalé. Ça nous a plongé un petit peu, replongé en 2021. On va pas faire les vieux débris à dire que c'était mieux avant. Mais quand on voit deux légendes comme ça qui s'effritent, qui sur la piste, qui se bagarrent et tout ça. Et en plus, c'était très fair-play. Franchement, ça animait le Grand Prix et c'était très chouette.
Écoute, mon Nico, tu commences à faire un peu de nostalgie et effectivement à dire c'était mieux avant. Non, c'était différent, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais bon sang que ça fait plaisir le sport automobile, quoi. Quand ça redevient du sport automobile, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire quand les contraintes, on va dire, inhérentes au règlement, tu me vois venir, ne posent pas de problème aux pilotes sur un circuit comme celui-là. Donc, ils peuvent se bastonner sans retenue. Et ça s'est passé à ce niveau-là et c'est toujours effectivement un grand bonheur. Surtout, il y a eu deux épisodes. Hein, il y a eu le premier puis le deuxième. Et donc, ça a été chaud bouillant. Ça, c'est un vrai bonheur, mais il n'y a pas eu que celui-là, il y en a eu d'autres, à d'autres niveaux. Je crois que vraiment, ça a été un très très beau Grand Prix. On va y revenir évidemment, puisque c'est mon coup de cœur, autant le dire tout de suite, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement plaisant. Et puis, bon, tu le disais, cette rivalité, évidemment, ça fait 5 bonnes années qu'on ne l'a pas revue à ce niveau-là. Je crois que les deux étaient excités aussi, on les a vus à l'arrivée, un petit peu comme des gamins. Moi, j'adore ça, quand ils sortent leur casque, ils étaient trempés, en sueur, mais vraiment heureux du bon tour qu'ils avaient joué.
Oui, oui, je suis d'accord. Louis, ça n'a, enfin, déjà, c'était une super bagarre sur la piste. Ça nous a permis de voir que Verstappen était capable de redevenir un plan à une victoire en Grand Prix. Ça a confirmé aussi l'état de Lewis Hamilton sur la piste, cette agressivité. Enfin bref, ce sont deux pilotes qui sont dans une bonne dynamique et pour la F1, c'est top hein, de les revoir se bagarrer pour les top places.
Ah bah là, c'est sûr que quand deux pilotes se battent, c'est cool, mais quand c'est un quadruple et on sait même plus, sextuple, je sais même plus comment on dit, champion du monde, septuple champion du monde, tout de suite, c'est clair que ça donne du sel. Et hier, c'était vraiment cool. Je pense que pour le coup, c'était quand même pas mal de vrais dépassements. Tu sais, Jean-Luc, quand on dit des changements de position ouais, depuis cette année, je pense quand même qu'hier, c'était pas mal. On voit un Hamilton, c'est un Hamilton retrouvé et ça fait plaisir parce que hier, bon, la stratégie, elle est peut-être pas parfaite et tout, mais bon, c'est tout à l'attaque et on sent que ça vient d'une motivation retrouvée, quoi, cette envie d'aller de l'avant. Bon, ça a pas payé, mais cet enchaînement de dépassements entre les deux, c'était vraiment sympa parce que bah déjà, ça nous mettait les souvenirs des années précédentes. Mais surtout, on revoyait vraiment une bagarre et ça a fait beaucoup de bien. Et surtout sur un circuit où c'est un petit manège, ce circuit. Donc, il y a clairement des endroits pour dépasser, mais c'est pas si simple. Tu peux te redépasser, donc ça donne avec des voitures comme ça qui sont à peu près équivalentes. Ça donne des super séquences et ça faisait du bien. Après, pour trouver un petit bémol, je dirais que on aurait pu espérer en voir un peu plus venant d'autres pilotes et que finalement, ouais, si on en parle autant, c'est parce que ça a été un peu le seul moment vraiment cool, quoi. Même si, comme dit Jean-Luc, le Grand Prix était sympa, mais c'est vraiment le highlight, quoi.
J'ai trouvé que ce Grand Prix, en tout cas moi personnellement, était sympa. Tiens, on va écouter Max Verstappen et après je vais vous questionner sur la suite de sa saison après cette course au micro du diffuseur Canal+.
Yeah, I think honestly better than expected to fight.
Moi sincèrement, c'était
like
mieux
this,
prévu de réussir à se bagarrer comme ça. Je m'attendais pas à me battre pour la victoire, mais le rythme était bon d'entrée de Grand Prix. J'ai eu plusieurs belles bagarres. Je crois que la première partie de la course était notre point fort. En deuxième partie, j'ai eu plus de mal avec la voiture. Il y avait quelque chose qui était un peu bizarre à l'arrière, mais être si proche de la victoire, c'est super positif. Ouais, Max Verstappen qui retrouve, Jean-Luc, le goût de la victoire. C'est qu'une question de temps, là, quand on voit la forme de Verstappen, là, pour remonter sur la première marche du podium, selon toi.
Ah oui, bah là, il n'en était pas loin du tout, hein. Il l'a expliqué. Alors, moi, je reviendrai juste un petit peu. Il faut préciser une chose qui a été admise complètement par Laurent Méquies, c'est que sa sortie de piste en qualif, eh bien, il n'en était pas responsable. Il y a eu un problème à l'arrière, tu sais, au niveau de l'aileron. Il n'a pas retrouvé l'appui qu'il aurait dû. Et ouais, c'est important à souligner ça, hein, parce que d'abord, ça, je l'avais signalé aussi, tôt ou tard, ça peut se terminer mal, cette histoire-là. Hein. Parce qu'un pilote qui aborde une courbe aussi rapide, de surcroît en descente et en dévers, s'il n'a pas l'appui sur le train arrière, tu vois un peu où il peut terminer. Bon, ça va, l'auto n'était pas trop détruite et surtout lui n'avait pas mal, à part les genoux. Hein. Il s'est choqué les deux genoux, ça l'a fait souffrir un peu pendant le Grand Prix. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Enfin, c'est un détail, sauf que peut-être qu'il aurait pu signer la pole, va savoir, et puis que ça a perturbé évidemment les deux pilotes Mercedes qui arrivaient derrière, Kimi Antonelli qui a été un poil trop prudent, il a cru qu'il y avait un double jaune, donc lui il a complètement avorté sa tentative, et puis Russell qui a levé un petit peu, qui a perdu du temps, qui a quand même signé la pole, ce qui est absolument incroyable et ce qui dénote évidemment le niveau de performance des Mercedes. Bon, donc c'est une anecdote, mais je la replace dans le contexte parce que comme tu le sais, bah, la position sur la grille de départ, elle conditionne évidemment les résultats en course. Hein. Donc si Verstappen était parti de la première ligne, c'est-à-dire devant les deux Ferrari, qu'il n'ait pas eu justement à perdre un petit peu de temps, et c'est ce qu'il a expliqué aussi après en disant bah, j'ai perdu un petit peu de temps avec Lewis. On s'est bien bagarré, c'était sympa. Lui aussi, il a trouvé ça. Même si, bon, à un moment, il a dit, ouais, il m'a mis un peu dehors. Et, bon, ça, ça fait partie du jeu. Puis les interventions à la radio, c'est toujours ce qui m'agace un peu. Donc, j'aime bien Verstappen, mais je le dis aussi, les pilotes qui vont pleurer en disant, voilà, oh, il faut lui mettre une pénalité, ça, ça, clairement, ça me gonfle. Mais bon, c'est pas à eux de le dire. C'est à la direction de course de faire son boulot, si elle a le faire, enfin, si elle peut le faire. Mais bon, peu importe. En tout cas, ils sont arsouillés tous les deux, puisque c'était ta question. Et je pense que Verstappen, s'il était mieux parti sur la grille, ben il pouvait gagner, oui. Pour répondre à ta question, la Red Bull ayant considérablement progressé, puisqu'il y a eu énormément d'améliorations hein, à plusieurs niveaux, on ne va même pas faire la liste de tout ce qui a été retouché, mais c'est clair que là, puis en plus, il paraît qu'ils ont le meilleur moteur. C'est la FIA qui le dit. Donc non, je rigole avec ça aussi, mais non, ils ont une bonne monoplace. Là sincèrement, Verstappen, il était globalement content à la fin du Grand Prix. Et encore une fois, il serait parti sur la première ligne. Je pense que c'était une autre histoire et je pense que Russell aurait eu du mal.
Mais c'est un des enseignements de ce week-end, Louis. On en parlait beaucoup dans le warm-up là, de jeudi. Red Bull arrivait avec un vrai package d'évolution. Moi, j'avais mis, tu vois, Verstappen comme limite favori de la course parce qu'il avait un historique sur ce circuit qui fait que, voilà, il est très à l'aise sur le Red Bull Ring. Mais ils sont là. Que ce soit Verstappen ou que ce soit Adjar, tu sens qu'ils se sont vraiment rapprochés là des meilleures équipes.
Bah, si on en croit en plus les résultats des moteurs là, ils auraient un bon moteur. Donc s'ils se sont allégés avec le châssis est bon, avec les pilotes qu'ils ont dans les voitures, ça peut venir très vite. Moi je suis un peu comme toi ce week-end. En fait, avant le week-end, je me disais bon, ça va peut-être être un peu tôt. Puis pendant le week-end, je me suis dit waouh, quand même, ils sont impressionnants Red Bull. Et donc ça peut être un match, ça serait top, mais ça peut être un match à 3 très vite. Après, faut voir aussi. J'ai l'impression quand même de circuit en circuit cette année, c'est très disparate comme performance, quoi. C'est très dur. On le voit quand on s'amuse à faire des pronos. C'est ouais. Vraiment chaque week-end. Ça, même quand les Mercedes étaient au-dessus, elles n'étaient pas tout le temps 1 et 2. Enfin, donc il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a un peu de fiabilité qui entre en jeu. Ça peut aller vite, mais de toute façon, Verstappen, à la seconde où il aura la voiture compétitive, et j'ai l'impression qu'il en est tout proche, on sait qu'il sera aux avant-postes, plus qu'aux avant-postes, il jouera la première place tous les week-ends. Donc, c'est partie remise pour lui. Hein. Je pense que là, ils sont sur la bonne voie, et on ne s'y attendait pas forcément il y a encore peu de temps. Quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est ce retour en grâce assez rapide, en fait.
C'est la magie d'un Max Verstappen. Toto Wolff le disait à la fin de la course. Il disait ok, Red Bull s'améliore, c'est bien, mais là on parle même pas de Red Bull, on parle de Max Verstappen. Donc bien sûr que quand Verstappen est dans le coup, à chaque fois il peut aller chercher un truc. Bah, ça change tout. Tiens, parlons aussi de la course du coup de Lewis Hamilton, Jean-Luc, qui malgré une Scuderia Ferrari qui a énormément souffert de la dégradation des pneus, on en reparlera avec Charles Leclerc plus tard dans le podcast parce que le pauvre Charles Leclerc, la dynamique lui ne s'inverse pas malheureusement, alors qu'on y a un petit peu cru et on même franchement cru après les qualifs, il a quand même réussi à prendre de gros points. Il a encore une fois réussi Hamilton à terminer devant son coéquipier, et en plus ce combat là roue dans roue avec Verstappen, c'est ce que je disais, ça montre quand même le niveau de confiance là qu'il a Hamilton.
Ah oui. Mais comme d'habitude, Fred Vasseur a été impeccable dans ses conclusions hein, à la fin du week-end, après le Grand Prix. Il y a eu cette embellie formidable de Barcelone où ça y est, nous les premiers, on s'est enflammés, on a dit ça y est, Lewis est de retour, Ferrari aussi, même si bon, Charles avait eu des problèmes, il avait dû s'arrêter, mais on s'est dit ça y est, c'est reparti. Et en fait, Lewis a dit la même chose, il a dit ah là, retour à la réalité les gars, là bon, on a bénéficié de très belles circonstances qu'on a magnifiquement exploitées avec une stratégie, il faut le rappeler, hein, différente, qui a payé. À Barcelone, là, ils ont tenté autre chose. Mais comme l'a dit très justement Fred Vasseur une nouvelle fois, s'ils ont adopté cette stratégie à 3 arrêts, c'est parce que celle à 2 arrêts ne marchait pas. C'est-à-dire qu'ils cramaient les pneus plus rapidement que les autres, et notamment à l'arrière, et notamment Charles, qui avait apparemment une monoplace déséquilibrée. On l'a vu hein, dès les premiers tours. Hein. Il n'était pas dans le coup, il était obligé de se battre. Et puis on voyait que sa voiture glissait de partout. Donc quand elle commence à glisser, tu flingues les pneus. Surtout quand tu es à 53, 54 degrés sur la piste. Hein. Il n'y a pas de secret. Là. Donc une fois que tu as cramé les pneus, tu es obligé de réduire les stints. Alors ça a été le cas notablement, hein, puisqu'on a arrêté Lewis au 13e tour, carrément. et puis on lui a mis des durs, et après on l'a arrêté à nouveau au 26e tour pour lui mettre des softs, carrément, on a tenté un coup. Quant à Charles, on l'a arrêté un tour d'après, au 14e, on lui a mis les durs également, et puis on l'a arrêté lui au 38e, tellement il se plaignait de ses pneus. Bon, alors après on lui a chaussé effectivement d'autres pneus, les softs au 60e tour. Ça veut dire que ils sont pas encore tout à fait là, hein. C'est la conclusion. Sur certains circuits, oui, Barcelone, avec peut-être les autres un petit peu en retrait. Silverstone, c'est un vrai juge de paix, hein, à tout niveau. Et puis, je le répète, malheureusement, là, les histoires de recharge de batterie vont jouer leur rôle à fond, ce qui n'a pas été le cas en Autriche, où encore une fois, short circuit, avec trois petites lignes droites, des capacités de recharge presque naturelles. Bon, ça n'a pas été très gênant pour les pilotes, hein, on l'a bien vu. En revanche, à Silverstone, ça va être une autre paire de manches. Et à mon avis, on va revoir des contraintes dues au règlement, malheureusement, qui risquent de peser. Alors que Silverstone, c'est quand même là aussi un juge de paix absolu, quoi, comme Spa. C'est un circuit que les pilotes adorent, avec des grandes courbes rapides. Et les voir passer comme des grands-pères le coude à la portière, ça va être un peu ennuyeux. Mais bon, allez, j'espère que je suis mauvaise langue et que, effectivement... Et puis, ils sont tellement proches, hein, les uns des autres, et je terminerai juste ma phrase là-dessus, qu'en fait, il suffit très peu de choses, vous avez vu les écarts, hein, en qualif et tout, pour passer d'un côté ou l'autre, parce que les deux Ferrari étaient extrêmement proches en qualif. Russell avait mis la barre un peu haut, Antonelli, normalement, il devait être sur la première ligne, hein, s'il n'avait pas dû interrompre son effort, on a bien compris qu'il y avait les deux Mercedes devant et les deux Ferrari derrière.
Tiens, je vous propose d'écouter Lewis Hamilton au micro Canal+. Il est notamment revenu sur ces histoires de stint, là, de ravitaillement, de stratégie de la Scuderia pour essayer de contrer cette dégradation des pneus.
Yeah, so the team wanted to do a two, like they did one. They wanted to do
l'équipe
two in the
voulait
last
faire
race
deux
well.
Arrêts. Ils voulaient aussi en faire deux à Barcelone la dernière course. Mais j'avais vraiment l'intuition qu'il fallait faire trois arrêts aujourd'hui. Et j'ai beaucoup insisté. Peu importe ce qu'ils me montraient comme plan. Ils m'ont dit que faire trois arrêts, c'était 4 secondes plus lent, mais j'étais sûr de moi. Franchement, la dégradation allait être forte. Ah, les conditions sont super, super chaudes. Je voulais démarrer à entendre. Ils ont insisté pour qu'on parte en médium. Démarrer à entendre, ça aurait peut-être un petit peu mieux pour nous, surtout pour le départ. J'aurais fait un premier arrêt au même endroit, je pense. Je serais quand même tombé derrière Max Verstappen, car la dégradation était forte. Mais sur les deux relais suivants, à mon avis, j'aurais eu une meilleure chance d'avoir Oscar Piastri. Mais peu importe, l'équipe a bien exécuté la situation. Franchement, les gars, on fait de bons arrêts. Voilà, Lewis Hamilton qui n'était pas sur la même longueur d'onde que les ingés pour cette course sur la stratégie, visiblement. Il dit peu importe, mais il fait passer le message. Quand même, Lewis, tu le sens. Va falloir qu'on parle aussi, les amis, de Charles Leclerc. On va y aller parce que vous avez commencé à embrayer là sur la situation. On en parlait, Louis, c'est une nouvelle fois une douche froide pour lui. On se disait, franchement, en plus, au niveau des performances globales de la Scuderia après Barcelone, on se disait, ça y est, ils ont amélioré un petit peu le moteur, il y a Hamilton qui gagne, il y a de l'optimisme. On se disait que la semaine qui allait suivre, la voiture, les performances allaient rester sur ce niveau-là. Leclerc part deuxième sur la grille, il fait une super qualif. Là, on se dit, c'est bon, ça y est. Il a fait le switch, il a inversé le truc, et puis en course il s'est effondré, quoi. C'est une des plus grosses contre-perfs de la saison en partant deuxième, hein, terminé huitième.
C'est Charles Leclerc. Je résumerais les dernières courses de Charles par le dépassement que Lewis lui a mis ce week-end, où tu te dis, t'as l'impression en fait que c'est les pilotes, ils ont inversé leur motivation ou leur cerveau avec l'an dernier. C'est-à-dire que tu en as l'impression qu'il y en a un qui n'y est plus complètement et que l'autre a complètement pris l'avantage. Et c'est vrai que quand tu repenses à l'année dernière où c'était complètement l'inverse, tu te dis mais comment on en arrive là, quoi. C'est assez impressionnant. Et vraiment, Charles, il n'y est pas, parce que comme tu l'as dit quand même, la Scuderia, certes, ils n'ont pas la meilleure voiture, mais bon, ils sont quand même en ordre de marche. On est sorti de cette saison très compliquée de l'an dernier où on attendait justement une nouvelle voiture, et donc là ça commence à faire beaucoup de manquer pour Charles. Donc je sais pas, est-ce qu'il se prend trop la tête, tu vois, parce que ça fait trop longtemps qu'il a pas gagné, il essaye trop de trucs, il va toujours trop loin, je sais pas, peut-être qu'il faudrait il faudrait qu'il se détende, tu vois, je sais pas. Mais un week-end propre, en tout cas, assurément, parce qu'il a besoin de ça. Parce que là, tu as l'impression qu'il y a toujours un souci, toujours un souci. Et est-ce qu'il n'est pas un peu dans sa tête, son souci, tu vois, tout simplement, et que tu vois, après le summer break et de bonnes vacances, ça peut aller mieux. Mais c'est vrai que là, je le vois pas du tout dans un bon mood et avec un coéquipier comme Lewis Hamilton, qui lui est à fond, qui lui tire le max de la voiture, ça peut vite être un sujet de pression supplémentaire pour lui, et ce qui serait pas bon, quoi.
Ouais, Jean-Luc, on en est à un bon, on se demande qui est un peu responsable de tout ça. Bah, bien évidemment, il n'y a pas qu'un seul facteur qui explique les contre-pertes de Leclerc, mais il est en galère, quoi. Il est en train de, et Louis le dit, peut-être de perdre une petite bataille psychologique là, face à Hamilton. Il ne trouve pas la solution sur la piste. Même quand il y a l'éclaircie de la qualif, malheureusement, il est tributaire des contre-perfs de la voiture. Enfin, il n'y a rien qui se met bien dans l'axe, quoi, pour Charles.
Absolument, c'est clairement une mauvaise passe, hein. Vous l'avez dit tous les deux, je ne vais pas paraphraser, effectivement, là, il est dans un bad trip, là. Effectivement, on rappelle que son dernier podium, c'est le Japon, quand même, ça fait 6 Grands Prix, hein, ça fait beaucoup, et puis l'ascendant de Lewis, effectivement, qu'il est en train de prendre, non seulement sur le terrain, puis au championnat, ça commence à peser lourd, hein, parce qu'effectivement, Lewis vient de rétrograder, parce que Russell a gagné le Grand Prix, mais Hamilton, avec 125 points, reste au contact, on va dire, alors que Charles, lui, se retrouve carrément sixième et derrière ou au niveau des deux McLaren, hein, 80 pour Piastri et 79 pour Norris et pour Leclerc en termes de points. Mais c'est vrai que là, c'est un Grand Prix épouvantable qu'il a vécu, encore une fois, après une bonne qualif, hein, parce que il part de la première ligne. Mais tout de suite, on a compris dans les premiers tours que sa monoplace était mal équilibrée, encore une fois, je le disais, qu'elle glissait de partout, qu'il n'arrivait pas à tenir le rythme, qu'il surpilotait peut-être, hein, à ce moment-là, et que donc effectivement, comme Louis l'évoquait, ils faisaient pas la même course, hein, les deux pilotes Ferrari, manifestement. D'ailleurs, Charles n'a pas cherché du tout à s'opposer au passage de Lewis, hein, entre équipiers, et puis ça servait à rien. Il a compris qu'il avait rien à faire, il pouvait juste handicaper la course de Lewis, qui était dommage. Bon, c'est vrai que là, c'est de la gestion pour le moment. Partir deuxième comme il le faisait sur la grille et terminer huitième, on peut dire que c'est une catastrophe, hein, à ce niveau de performance. J'espère que ça ne va pas finir par lui attaquer un petit peu le moral, effectivement, parce que ça, ce serait, même si évidemment il ne va pas le dire, il va essayer de le masquer jusqu'au bout, etc. Mais là, il y a un moment où lui-même doit se poser des questions en disant, lui, il prend toujours pour lui ce qu'il a à prendre. Hein. Il est d'une franchise absolue, vous êtes d'accord. C'est peut-être le pilote de la grille qui, alors dès qu'il y a un problème, il le dit, c'est moi, parfois trop d'ailleurs, on le dit, il devrait en prendre un peu moins sur ses épaules, mais il le fait. Là, c'est même plus le cas. Là, sur ce Grand Prix-là, encore une fois, il fait une bonne qualif, parce que quand on part à un souffle quand même des Mercedes et qu'on s'intercale entre les deux et qu'on part de la première ligne, on a des espoirs pour le Grand Prix. Rapidement déçu, après quelques tours, il a compris que ça allait être de la gestion. Puis la dégradation des pneus, il l'a dit, hein, il a été effectivement très, très grossier même à propos de ses pneus, de ses trains de pneus, en parlant à son ingénieur, en disant « bon là c'est une cata les gars, faut faire quelque chose ». Donc du coup, comme l'expliquait Fred Vasseur, on est passé sur une stratégie à 3 arrêts. Il va falloir que ça s'arrête, parce que là Charles, il est sur la très très mauvaise pente.
Et on va l'écouter, Charles Leclerc, qui, comme d'hab, ce qu'on disait, ne se voile absolument pas la face au micro de Canal.
Pour l'instant, il faut que je bosse, parce que très clairement, hier, c'était un step en avant. On avait pas mal changé la voiture. On est parti dans une direction un petit peu différente. Aujourd'hui, par contre, c'était extrêmement difficile dès les premiers tours. Comme vous l'avez dit, j'ai ressenti tout de suite que j'avais pas beaucoup de perfos. Dans les deux premiers tours, j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de deployment. Après, ça s'est régularisé. Après, ça allait un petit peu mieux. Mais la performance était pas là. La stratégie paraît toujours, celle qu'on choisit est toujours la mauvaise quand il n'y a pas le rythme. Et donc, aujourd'hui, je pense pas que ce soit la stratégie le problème. Il va falloir beaucoup bosser, parce que là, très honnêtement, ça va pas. En qualif c'était mieux, mais là encore une fois en course c'était vraiment pas bien.
On peut dire en tout cas, les amis, que l'Autriche a remis un peu Ferrari à sa place. Alors nous on s'était pas enflammé, hein, après Barcelone. Fred Vasseur le premier avait dit attention, mais c'est quand même un des enseignements du week-end, c'est que Ferrari est rentré dans le rang, hein, avec cette histoire de dégradation, Jean-Luc.
Ah oui, clairement. encore une fois, la victoire de Lewis était un événement en soi, hein, la 106e victoire de sa carrière, la première sous les couleurs Ferrari, bon, c'était un événement, voilà, avec une stratégie, je le rappelle encore une fois, 7 fois à 3 arrêts qui avait bien fonctionné, bon, super, et puis du coup, bah, on était un petit peu en dedans, on l'avait bien vu du côté de George, hein, Russell qui termine 2, mais je répète encore une fois que c'est Antonelli qui aurait dû terminer 2e, bon, voilà, c'était fantastique, c'était formidable, ça a permis quand même de matérialiser les progrès de la Scuderia qui bosse comme des malades, mais comme tout le monde, on ne va pas le dire, je crois qu'il n'y a pas une équipe de Formule 1 qui n'est pas à la limite. D'ailleurs, ça a suscité, vous l'avez vu également, des critiques un petit peu, ou tout au moins des doutes de Toto Wolff, qui n'est pas le dernier pour insinuer des choses, en disant, mais je ne sais pas comment ils font, hein, avec le budget cap, comment ils font pour apporter des nouveautés sans arrêt comme ça. Bon, c'est un gag. Ils ont également apporté une nouveauté au plan moteur, puisqu'ils étaient notablement en retrait, hein, apparemment d'après les mesures de la FIA, entre 4 et 6% par rapport au Ford, qui est la valeur étalon. Donc, ils avaient une petite amélioration moteur, d'après Charles aussi, qui s'est exprimé sur le sujet après les qualifs, en disant « Ouais, c'est un peu mieux, mais faut pas, on n'a pas révolutionné le truc ». Bon, bah, je crois qu'effectivement, ils sont où ? Bah, ils sont à peu près au niveau de McLaren, hein, c'est ce que ça donne. Mais un pas derrière Mercedes, évidemment, et puis peut-être derrière les Red Bull maintenant, ou au moins une, celle de Max. Hein.
Oui, clairement. Il va falloir voir cette réaction de la Scuderia. Bon, tu le disais, Silverstone, c'est souvent un juge de paix aussi, donc ça va être important de voir le rebond de Ferrari. Rebasculons quand même sur Mercedes. Je voulais qu'on ouvre le podcast. On va pas à chaque fois ouvrir sur Mercedes, ils font que gagner. Donc, en tout cas, il y en a un qui a gagné, qui était un grand oublié des dernières semaines, et il est vraiment en train de revenir au premier plan. C'est George Russell. C'est vrai que depuis Melbourne, on parlait beaucoup d'Antonelli, de Ferrari, de Verstappen. Il était un peu sorti des radars, Russell, Louis. Et mine de rien, bah voilà, ça revient, ça grappille. Il a su inverser la mauvaise dynamique, lui. Et il recolle petit à petit sur Antonelli au championnat.
Oui, je pense d'ailleurs que ça fait plusieurs Grands Prix et qu'il est, lui, il fait tout bien. Et que ça n'a pas suffi pour des raisons extérieures. Et là, enfin, ça a payé de bout en bout. Ça a même payé presque à l'envers. Parce que moi, j'avoue que j'étais très, très surpris qu'on lui laisse son temps. Parce que ça ouvre quand même la possibilité à d'autres de faire pareil et de se dire on va passer un drapeau jaune à la limite. Enfin bref, tout ce que ça peut ouvrir en termes de sécurité, je trouve que c'est pas un très bon message envoyé. Enfin bon, il a été en pôle. Il a été en pôle aussi parce que clairement, je pense que la voiture le méritait. Si tu veux, quand tu lèves le pied dans ton tour qualif et que tu es quand même premier, ça, même s'il n'a pas levé beaucoup le pied, c'est quand même très impressionnant. Et je pense que Toto, il doit se dire. On devrait quand même, si on foire pas tout nous-mêmes, on devrait quand même être champion à la fin de la saison. Et pour Georges, bah voilà, il grappille. On en avait parlé un peu dans les épisodes précédents. On savait que le jour où il reviendrait, bah Kimi allait peut-être pas avoir telle poisse, la même poisse que Georges, et qu'il allait sûrement être dans les points. Alors le week-end dernier, pour le coup, il a eu un problème de fiabilité, mais là il est juste derrière, donc bah il grappille. Donc heureusement que c'est une saison très longue. Mais moi, je ne suis pas du tout surpris, puisque je m'attendais même à... J'étais plutôt surpris de le voir en difficulté face à Kimi. Donc là, je pense que c'est la normale. Est-ce qu'il ne part pas déjà un peu trop loin ? Ouais. On le verra. Mais c'est vrai que il remet les pendules à l'heure, juste en tout cas, sans parler du classement. C'est un week-end abouti. Complet, avec un début de Grand Prix, voilà, toujours pas parfait forcément, mais derrière un très très gros rythme, et qui lui a permis de passer un dimanche tranquille, quoi. Donc je pense que lui, il est très motivé, il va repartir à fond. De toute façon, il le sait, hein, c'est son année ou jamais, on l'a déjà dit. S'il se fait battre par Kimi cette année, ça va être très compliqué pour lui la suite de sa carrière.
En tout cas, c'est une petite renaissance mentale, cette victoire. Écoutons George Russell au micro de Canal.
It feels great. It feels great because
it's been a tricky run for various reasons. J'étais sur une mauvaise série pour plusieurs raisons, parfois de ma faute, parfois dû à la malchance. Mais c'était agréable d'avoir une course fluide aujourd'hui. Ce n'est pas un circuit que j'apprécie particulièrement en plus.
J'y suis en difficulté. J'ai beaucoup travaillé ce week-end pour améliorer mon rythme en course dans des conditions chaudes avec beaucoup de dégradation des pneus. Et j'y suis arrivé, il y a toujours des choses que je peux améliorer, bien sûr. Je ne comprends pas encore totalement les pneus. Et j'ai un incroyable coéquipier qui fait du superbe travail à chaque tour, chaque course. Donc je dois hausser mon niveau de jeu toutes les semaines. J'ai visé 4 des 5 dernières pole positions en incluant le sprint au Canada. Donc je peux être satisfait de ça. Gagner à nouveau, c'est aussi une grosse satisfaction. Donc je suis dans une bonne dynamique et il faut que ça continue. C'est vrai Jean-Luc, mine de rien, George Russell, 4 pole positions sur les 5 dernières. En fait, il est rapide. Il a réussi à inverser ce petit truc en course là, mais il est rapide.
Bah exactement, il est revenu au niveau de Kimi, déjà tu viens de le rappeler bien sûr en qualif, hein, 4 à 4, donc c'est pas mal. C'est la 11e pole de sa carrière, sa 7e victoire. Là aussi, bah, il y a un moment qu'il n'avait pas goûté à la plus haute marche du podium, hein, ça remonte à l'Australie, le premier Grand Prix. Alors comme il l'a dit aussi, un peu de sa faute, un peu des problèmes techniques, un peu... Moi, je vais louer une nouvelle fois Russell, mais sincèrement, je répète que intrinsèquement, on va voir ce que l'avenir me confirmera ou m'infirmera, mais je pense qu'Antonelli est légèrement plus rapide. Alors, il l'avait démontré sur le terrain à Barcelone avant de connaître ce problème technique et d'entraîner son retrait à quelques tours de l'arrivée. Et là, il était extraordinairement rapide en fin de course. C'était lui l'homme le plus rapide. D'ailleurs, bah, vous me voyez venir, c'est lui qui a le tour le plus rapide en course. Hein. Une 10-374 au 59e tour. Il est revenu dans la boîte de vitesse de la Red Bull, qui elle-même, bah, bien forcée, revenait dans la boîte de vitesse de Russell. Je pense qu'avec un ou deux tours de plus, vraiment, le podium pouvait être totalement inversé, parce que Antonelli était capable non seulement de passer la Red Bull, mais je pense de passer également Russell. Donc, écoute, oui, tu as raison, il s'est remis dans le coup, même psychologiquement, surtout que entre-temps, on nous a affirmé, lui l'a dit d'abord, et Toto Wolff l'a confirmé, qu'on le gardait pour 2027, ce qui a priori donc enlèverait les multiples tentatives pour faire venir Verstappen. Vous savez, hein, c'est le feuilleton du jour, maintenant on parle de McLaren, bon, ok, c'est un autre débat. Donc a priori, il est conforté chez Mercedes, et ça quand même pour un pilote, quoi qu'on en dise, surtout en ce moment, hein, c'est la meilleure équipe, ça les voitures les plus rapides. Donc savoir qui sera là encore l'an prochain, c'est une bonne chose. On amorce le Grand Prix de Grande-Bretagne, on y va. Il sera chez lui quand même, Russell. Je pense que c'est un beau tournant, là, franchement. Hein. On va voir si effectivement il démontre en Grande-Bretagne, devant son public, qu'il est encore capable de gagner. Et j'allais dire avant tout devant Antonelli, puisqu'évidemment, Antonelli, il a la même voiture. Et puis le gamin, il apprend vite. Hein. Là, il l'a dit lui-même, il a été brouillon dans les premiers tours. Il était un peu énervé de partir d'aussi loin, d'avoir commis cette erreur en qualif, d'avoir levé complètement le pied, d'avoir complètement avorté son tour quand il a vu que son équipier, lui, avait décroché la pole en levant légèrement. Donc il s'est dit, moi aussi, j'en avais sous le coude. Explication de gravure à Silverstone dès la fin de semaine, ça va être génial.
Ouais, ça va être vraiment vraiment chouette. Tiens, bah écoutons Kimi Antonelli au micro de Canal.
Yeah, I mean, of course, I wished it was longer.
If I was in P1, bien sûr, j'aurais aimé que cette course dure un peu plus longtemps. Bon, si j'étais premier, j'aurais voulu qu'elle soit plus courte. Yeah, j'étais en chasse et avec deux ou trois tours de plus. Ça aurait été un beau combat. Mon premier relais a vraiment été très mauvais. Mais les deux suivants, très bon. J'ai surtout eu du mal avec les freins sur le premier relais. J'ai beaucoup appris ce week-end et j'ai hâte de Silverstone, vraiment. Ouais, lui aussi, il est plutôt lucide, hein, Antonelli. Il est même un peu rigolo. À son âge, il a de la répartie. Ah ouais. Tu sens que, ouais, franchement, c'est un personnage sympa. J'ai hâte de le voir.
Il s'amuse.
Ouais, exactement. Il est encore dans l'insouciance pure et dure. Andrea Kimi, Antonelli. Louis, tu partages l'avis de Jean-Luc là, franchement, sur la fin de course, Antonelli avec son rythme. J'allais dire la victoire, elle était pour lui. Elle n'était pas pour lui parce que mine de rien, George Russell a quand même plutôt maîtrisé cette course. Il y a eu de la fluidité dans sa gestion, mais il allait tellement vite, Antonelli là, sur la fin de la course.
Il est revenu comme une balle. Il lui manquait sûrement, je pense, un tour. Je pense un tour, ça suffisait à passer, à faire son dépassement. Après, pour gagner, ouais, il en aurait fallu quand même un petit peu plus. Mais ouais, il est surprenant parce que l'année dernière. Moi, j'étais resté un peu sur son petit craquage après l'Italie l'année dernière, et je m'étais dit, apparemment, il a des difficultés à gérer la pression, et cette année, il prouve mais tout le contraire, tous les week-ends, quoi. Et comme vous dites, même dans la com, il est très bon, très fort. Il a 19 ans, donc c'est quand même c'est impressionnant, et c'est pour ça que je serais pas étonné qu'il finisse par surclasser Russell. Mais si c'est déjà le cas cette saison, ça sera encore plus dingue, quoi. Parce que Russell, ouais. c'est pas non plus. Enfin, tu vois, Russell, à l'époque où il est chez Williams, les gens attendaient, parce que moi j'attendais que Valtteri reste à jamais à Mercedes, mais les autres personnes attendaient qu'il dégage au plus vite pour mettre Russell dedans en disant vous allez voir ce que vous allez voir. On se souvient d'ailleurs quand il était monté dans la Mercedes, il avait fait très mal à Bottas à Bahreïn, je crois, sur le circuit alternatif.
Il était en mesure de remporter son premier Grand Prix. Tu te rappelles
exactement,
il y avait les erreurs entre guillemets de Mercedes.
Ils
comme
l'ont
fait
passer
hasard,
12 fois au sein. Tiens, repasse encore voilà. une fois là parce que c'est pas assez. Mais donc oui, donc c'est clair que c'est pas n'importe qui, et donc ça place aussi tout le talent de Kimi. Mais de toute façon, quand même, on savait que si Toto allait chercher, j'allais dire un enfant, mais un ado, quoi, quelqu'un de si jeune, c'est qu'il savait qu'il était tombé sur un diamant brut, quoi.
Ouais, clairement. Tiens les amis, c'est l'heure de la chronique de notre Jean-Luc. On parlait de ce top 3 en 1,9 secondes là à la fin de la course. On parlait de cette lutte entre Hamilton et Verstappen. C'est un coup de cœur pour notre Jean-Luc Roy. Jingle.
Oh yes, ladies and gentlemen,
il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Les moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule, là. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Bon Jean-Luc, on en a un petit peu parlé en début de podcast, mais je voudrais que tu développes un petit peu ton avis sur cette course. Tu t'es régalé, t'as revu du sport automobile, t'as revu des dépassements, t'as revu des pilotes qui pouvaient s'exprimer en laissant un petit peu de côté la gestion de la batterie, de l'énergie et voilà, et en étant vraiment en mode racer sur la course. Et ça t'a plu?
Exactement, mon Nico. Ben, tu sais, ça m'amuse pas de râler, pour être clair, hein, d'être grincheux, de dire « il y a ça qui va pas, il y a ceci qui va pas ». Là, quand on a l'occasion de se réjouir, mais bon sang, il faut le faire. Donc là, je me réjouis totalement d'abord de voir trois pilotes en moins de 2 secondes à l'arrivée, on vient de le dire, hein, et avec une incertitude quand même. Parce que même si George Russell gérait devant, Verstappen ne gérait pas du tout, et alors Antonelli encore moins. Donc avoir trois pilotes à l'attaque comme ça et terminer dans un mouchoir, bah, c'est quand même sacrément réjouissant. Et puis derrière, ben, il n'y avait pas beaucoup d'écart non plus. Alors certes, il y avait un trou, hein, ça j'en conviens, mais avec Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, alors le pauvre Charles, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, lui il était un train derrière, mais on avait encore un paquet de pilotes qui se sont passés, repassés à des moments divers, selon les arrêts, selon les montres pneumatiques, selon les stratégies. Et puis plus loin, même, je vais jusqu'à Lawson et Lindblad, qui eux aussi se sont arsouillés. D'ailleurs, à un moment, Lawson a été surpris de voir Lindblad, qui lui aussi, alors à 18 ans, hein, il a encore, par rapport à Lindblad, Antonelli, c'est un vieux, hein, il a un an et demi de plus. Donc à 18 ans, le môme, il a peur de rien, il attaque Lawson, il le passe, et Lawson dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on s'était mis d'accord. » Bah non, non. Bon, donc ça veut dire qu'il y a eu du baston, et il y a eu vraiment un vrai Grand Prix, il y a une course automobile, il n'y a pas eu de gestion hormis les pneumatiques, mais ça on est habitué, hein. Surtout avec une température aussi élevée, et puis surtout que Pirelli, et je leur rends hommage aussi, tu vois, je leur tape assez sur la tête quand il y a matière, bah là ils choisissent, ils l'assument et ils l'avouent, des choix stratégiques, parce que c'est eux qui déterminent les trois gommes, hein, qu'ils apportent. Là ils ont choisi les trois gommes les plus tendres, et ils ont dit, bah, cette année on a décidé de prendre des risques un petit peu plus et de permettre d'ouvrir les stratégies. Ben moi, je trouve ça génial aussi, parce que même si pratiquement tout le monde s'était lancé en médium, hein, on l'a signalé, à part Bortoleto qui était en soft, à part Carlos Sainz qui était en soft, bon, tout le monde est parti pratiquement en médium. Après, on a eu quelques variantes, effectivement, on l'a signalé, et notamment Hamilton, hein, qui, pour son arrêt, après son deuxième arrêt au 26e tour, chausse lui aussi des pneus soft, et puis Leclerc qui les chausse au dernier moment. Bon, moi, je trouve que ça a été un Grand Prix réjouissant. Encore une fois, c'est du sport automobile et c'est vraiment tout ce qui nous motive, je crois, tout ce qui nous réjouit. Et puis, même chose, le body language, quand tu vois les pilotes qui, à l'arrivée, sont fatigués, rincés, surtout que pour certains, le système d'hydratation ne fonctionnait pas bien. Donc, effectivement, avec des températures très élevées, mais ils sont souriants, ils ont la banane, ils se tapent dans le dos comme une bande de gamins qui sont vraiment comme ce qu'on a tous fait, hein, pratiquement, en faisant des courses de cartes, en se mettant des coups de roue, mais sympa. Donc, quand on a, et à ce point, et même Hamilton, et on le sait bien, et Verstappen, qui ne sont pas les meilleurs amis du monde parce qu'ils ne partent pas en vacances ensemble, mais quand on a des belles passes d'armes comme ça, ils en ont eu deux, bah, ils sont réjouis. Donc moi, je m'en réjouis, et là, je dis bravo, et je dis bravo, encore une fois, à qui ? Bah, aux pilotes, bien sûr, parce que c'est eux qui sont sur la piste, c'est eux qui utilisent les engins qu'on leur met entre les mains. Donc pour toutes ces raisons-là, plus un circuit, tu l'as souligné, mon Nico, qui est un circuit, même s'il a été raccourci, hein. Moi, j'ai connu le grand,
oui, au Star-Reichring. Oui, il a été raccourci, ouais, bah oui.
Ah, voilà, mais bon, celui-là, il était horriblement dangereux, et puis ça n'aurait pas été possible. Mais j'allais dire, on l'a ramené aux normes, mais un peu ou beaucoup, comme Spa-Francorchamps ou Suzuka, en conservant le caractère particulier dans les montagnes, avec des dénivelés importants. Donc certes, le court est tour, ou l'inverse, le tour est court, comme vous voulez. Mais en tout cas, le résultat est là. Et moi, je trouve qu'on a vécu un très beau Grand Prix, voilà. Et il fallait le dire.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Bah, je propose qu'on envoie une alerte canicule parce qu'on voit les ravages que ça fait avec Jean-Luc, parce qu'il vient de dire que l'Alpha c'est génial et Pirelli ils sont géniaux. Alors, je crois que c'est un coup de chaud. On appelle ça un coup de chaud.
Je t'ai pris un revers au filet là.
Vous ratez-vous à la maison.
Sors de ce corps.
Tiens, basculons un petit peu sur Isaac Hadjar. Mine de rien, Isaac Hadjar qui est en train d'enchaîner les très bons résultats. Alors oui, il n'est pas devant Max Verstappen, mais bien évidemment que c'était attendu. Mine de rien, Hadjar, c'est 5e au Canada, c'est 4e à Monaco, c'est 6e à Barcelone et c'est désormais 6e en Autriche. Ça prend des gros points. C'est passé devant Pierre Gasly, je le disais tout à l'heure, au championnat constructeur. On l'écoute et Louis, tu me dis ce que tu penses là de la régularité d'Hadjar qui est importante chez un pilote numéro 2. Écoutons Hadjar au micro de Canal à l'arrivée de la course.
Je suis content parce que je pense pas qu'il y avait grand chose à faire. En partant 8e, il fallait être agressif sur la stratégie, ça veut dire rentrer tôt au stand, manquer de pneus sur les fins des relais, donc c'était pas la course la plus rapide mais c'était la plus efficace, donc sur cet aspect je suis assez content, même si honnêtement on aurait dû partir plutôt devant sur la grille si on n'avait pas eu les problèmes de déploiement hier, mais bon, c'est comme ça. Ah, je pense qu'aujourd'hui, on était la deuxième meilleure voiture de la grille. Je pense qu'on était plus vite que les McLaren, que les Ferrari. Je suis content. J'aurais bien aimé voir mon rythme de course si j'étais un peu plus avancé dans le peloton, mais je suis content.
Voilà, Isaac Hadjar content. C'est vrai qu'il n'a pas eu... Alors lui, il n'a pas bénéficié de circonstances de course vraiment favorables, parce que si je ne dis pas de bêtises, en qualif, son tour rapide est stoppé par l'accident de Verstappen. Il n'a pas eu le temps, de faire son dernier tour et de le boucler, Isaac Hadjar. Et c'est vrai que du coup, bah, il s'est lancé en 8e position et forcément, ça change la lecture de la course. Mais c'est ce que je disais, Loulou, il marque de gros points, Hadjar. Il est régulier et c'est ça qu'on voulait chez Red Bull depuis Sergio Pérez. Hein.
Exactement, exactement. C'est exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il devait faire. On en avait parlé l'année dernière en disant bon, on sait que Verstappen c'est un peu inatteignable, il faudra s'en rapprocher le plus possible, idéalement avoir des gaps inférieurs à ses prédécesseurs. On se rappelle de Pérez qui a fini au-dessus de la seconde très régulièrement ou des choses comme ça. Donc là, on n'est pas du tout dans ces sphères-là. Il est beaucoup plus proche, il fait des résultats solides. Et moi, ce qui me rassure ces derniers temps, c'est que la frustration est en train de le quitter en interview. Ce qui montre plus de sérénité. Et je pense que ça veut dire que le premier checkpoint est passé. Quoi. Ça, c'est bon, on a vu que ton déménagement, si on peut appeler ça comme ça, a été plutôt réussi. Et maintenant, il faut continuer à travailler sereinement. Et ces résultats comme ça, solides, alors toujours un petit peu derrière Verstappen, mais solides, et chaque week-end, Parce qu'un week-end, c'est pas que le dimanche, et en ce moment, ces week-ends, ils sont bien. Bah, c'est exactement ce que les autres n'avaient pas réussi à faire précédemment. Ça montre aussi justement tout son talent. On en parlait tout à l'heure avec les Mercedes en disant de battre seul, ça montre tout le talent de Kimi. Là, c'est un peu pareil, d'être si près de Max, ça montre tout le talent d'Isaac. Et bah, pourquoi pas aussi qu'il passe un cap encore et qu'il soit devant de temps en temps. Quoi.
Ouais, tu ressens ça, Jean-Luc, un petit peu, le fait qu'Adjar arrive à assimiler un peu plus son rôle, c'est normal. Hein. Tu débarques chez Red Bull et puis tu débarques surtout à côté du meilleur pilote du monde. Bien évidemment que tu as envie de te jauger, mais il faut trouver aussi ta place. Et on a la sensation, là, c'est ce que disait Louis, que ouais, il est en train un petit peu de digérer tout ça, de s'accommoder de son rôle, d'essayer bien évidemment d'aller le plus vite possible, mais il est conscient aussi qu'il doit prendre des points toutes les courses et c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai la sensation voilà, qu'il est en train d'assimiler un petit peu tout ça.
Absolument. Écoute, solide, a dit Louis. Moi, je rajoute très solide, franchement. Parce que tu sais, on en parlait en début de saison. Hein. Moi, j'avais dit, s'il est à moins de 3-4 dixièmes de Verstappen, quelle que soit la voiture, bah, ce sera remarquable. Et bien là, les faits parlent. Les fondamentaux en qualif, même si Verstappen, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas terminé son tour le plus rapide, mais Isaac non plus. Donc, 1.06.475 pour Verstappen 5e. Et derrière, on a Adjar, 1.06.632. Quand on est à un dixième et demi, et en course, les temps en course même, si, il nous a dit que oui, il n'était pas toujours bien, mais si, 1.10.947 pour lui, 1.10.483, là aussi, il y a à peine 5 dixièmes, mais lui était avec de l'air perturbé dans le paquet, etc. Non, c'est très bien ce qu'il fait, c'est très solide, et pour le moment, c'est du sans faute. Alors, vous l'avez vu au classement déjà après 8 courses, hein, bah on a le trio de tête, hein, clairement, on a Antonelli détaché, puis on a Russell et Hamilton, bon, Hamilton qui est dans le coup. Ensuite, on a un groupe avec Piastri, Norris et Leclerc et Verstappen, les quatre dans un mouchoir. Et puis, bah, c'est Isaac qui mène à la 8e place, qui mène le train suivant. Il vient de passer devant Pierre, hein, Gasly. Non, c'est du très bon boulot. Écoute, là, en gagnant un peu en sérénité, je l'ai dit assez tôt également, dès l'an dernier, il est en train de gagner en sérénité. Pourquoi aussi ? Bah, parce qu'il dispose, surtout depuis ce week-end, d'une monoplace qui est moins rétive, qui est moins difficile à maîtriser. Et dans ces conditions, bien sûr que le talent exceptionnel et le métier formidable de Verstappen fait la différence. Mais si la voiture est meilleure, bah, intrinsèquement, Isaac va être meilleur. Et donc, au niveau des McLaren, oui, sans problème. Au niveau de la Ferrari de Charles, on l'a vu, oui, largement. Donc, le meilleur est à venir.
Ouais, complètement d'accord avec vous et franchement c'est de bon augure pour Isaac Adjar. On le disait qui est en train vraiment de sécuriser aussi son baquet chez Red Bull. On sait que même si beaucoup de choses ont changé, même si c'est plus le même environnement que sous Christian Horner, qu'il y a forcément et je pense très sincèrement plus de sérénité chez Red Bull et on est peut-être sur un projet moins court-termiste. Quant au pilote numéro 2, il était moins sur un siège éjectable que les précédents pilotes qui ont eu son baquet. Adjar, malgré tout, il y avait de la pression et il est en train de se faire à tout ça et de prouver que bah, il mérite d'être aux côtés de Verstappen pendant peut-être plusieurs saisons. Donc ça, c'est ultra prometteur. Un petit mot sur les McLaren, les amis. Alors c'est bien parce que dans notre warm-up avec Kylian Verhoeven et Tristan Van den Driesch jeudi dernier, on a fait une alerte en enlèvement pour Oscar Piastri. On se demandait où est-ce qu'il était passé. Quatrième. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe.
Il est là.
il est là. Il est bien là. Piastri quatrième. Lando Norris septième. J'ai du mal à analyser ce week-end de McLaren, ouais, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas.
C'est surprenant McLaren parce que, enfin, il jouit quand même d'une certaine tranquillité parce que un double champion du monde qui fait les résultats de McLaren depuis le début de saison, si c'était Ferrari ou Mercedes, on serait déjà à se dire mais rien ne va plus. Bon, on sait qu'il y a eu un changement de réglementation, attention évidemment. Mais eux, comme tu dis, ils disparaissent un peu, on les voit plus trop et tout le monde s'en fout. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois, ils sont quand même plus tranquilles quoi, que Ferrari ou Mercedes quand ça va mal. Alors pourquoi ça va mal Je sais pas trop. J'ai l'impression que si les moteurs, c'est vrai qu'ils ont pas le meilleur, du coup c'est peut-être que le châssis est pas top non plus. Puis l'un dans l'autre, tu souffres. Mais pour moi, ils sont quand même en dessous. Je suis un peu déçu de leur saison, Jean-Luc, moi.
Oui, alors, tu sais, je regardais, tu sais, les fondamentaux, j'adore cette expression, je sais que vous adorez le rugby tous les deux, moi aussi, j'espère que tous ceux qui nous écoutent, c'est le, parce que voilà un vrai sport, les fondamentaux. Eh bien, j'en reviens, carrément, je regardais les temps, là, en qualif, il y avait, je dis pas de bêtises, il y avait 9 millièmes entre les deux pilotes, ça veut dire qu'ils sont vraiment très proches, hein. Et en course, 55 millièmes les temps en course, donc ça veut dire qu'ils sont ensemble, voilà. Alors après, il y a l'effet de course, il y a effectivement les petits problèmes que l'un peut rencontrer, pas l'autre, la manière dont s'effectuent les arrêts au stand, qui sont un poil différents parfois, on ne les arrête pas tout à fait, encore que je suis en train de regarder pour confirmer ou infirmer. Voilà, on avait arrêté Piastri au 20e tour, on a arrêté Norris au 22e tour, ensuite on a arrêté Piastri au 43e tour, et puis Norris au 48e. Bon, ça dépend aussi des positions sur la piste, hein, vous le savez bien, et de l'endroit où le pilote va repartir dans le flux pour justement pas être embêté par un pilote moins rapide. Surtout que il faut dire un truc, hein, mon Nico, pour remettre les choses dans l'ordre, quand même, à partir de des Racing Bulls, c'est-à-dire de Liam Lawson, on est à un tour, tenez-vous bien, ouais. Pour Esteban Ocon, on est à deux tours, comme Alex Albon, et quant à parler des trois tours du pauvre Fernando Alonso, qui boit le calice, mais vraiment jusqu'à la lie, hein. Donc, c'est pour dire que là, malgré un circuit court, très court, et j'y reviens, et des temps autour très courts, on va y arriver, et ben on a terminé quand même très très loin sur la distance. Alors, pour parler des McLaren et revenir là-dessus, bah, clairement, elles marquent le pas cette année. Alors là, on n'a pas effectivement la bataille pour le titre. Bah, même s'ils ont finalement scoré d'assez bons points, là, ils en prennent 18, hein, sur ce Grand Prix, alors que la Scuderia Ferrari n'en prend que 14 et que Red Bull n'en prend que 26. Bon, ils restent au contact. Ils sont troisième au championnat, tu l'évoquais aussi, mon Nico, avec 159 points. Ils sont un peu seuls, hein, loin devant Red Bull à 115, mais loin derrière la Scuderia Ferrari à 204. Bah, ils grignotent. Alors, eux aussi, ils vont apporter des évolutions. Vous savez qui joue à domicile, hein, évidemment, parce qu'alors là, à Silverstone, là, ils traversent la rue, hein. Donc il y aura carrément tout le personnel de l'usine, c'est quand même une motivation, quoi qu'on en dise, pour les pilotes, pour tout le monde, pour les gens qui vont travailler là. C'est une écurie britannique, alors là, comme jamais, McLaren. Je pense qu'ils vont refaire leur retard petit à petit, et encore une fois, pour notre plus grand bonheur, parce que ça veut dire que dans le débat entre Mercedes, encore dominateur, Red Bull qui revient dans le coup, on l'a dit, Ferrari qui n'est pas largué, et McLaren, bah, la bataille des gros bras à quatre équipes, ça c'est quand même que du bonheur, non ?
Ah, ça c'est clair qu'on a envie de voir ça là, sur cette deuxième partie de saison. On a hâte si ça se produit. Et puis on va terminer ce podcast en parlant de Pierre Gasly. Quand même, c'est la première fois, hein, en 8 courses que Pierre Gasly n'arrive pas à mettre son Alpine dans les points. Il était extrêmement régulier, extrêmement bon depuis le début de la saison. Là, ça a été compliqué pour lui, c'est ce qu'il disait à Canal.
C'était un peu horrible toute l'après-midi là. C'est très mal commencé, on a eu un problème de puissance au départ, on n'a pas eu toute la puissance jusqu'au virage 4, donc je crois qu'on doit perdre deux places dans le premier tour, deux ou trois, je sais plus. Et après, c'était vraiment une des courses les plus compliquées, la plus compliquée de l'année en termes de grip. On glissait partout, on n'avait pas une bonne balance de voiture et on était très mauvais sur la dégradation, on dégradait énormément, donc beaucoup de choses à revoir.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Alpine souffrir autant sur la piste, Jean-Luc.
Oui, c'est exact. Bah, comme tu l'as souligné, hein, Pierre était dans les points tout le temps. Alpine au championnat est un solide cinquième, un vrai très solide cinquième. Bon, loin des quatre gros, bien sûr, mais loin devant Racing Bull, qui pourtant grignote aussi, marque des petits points. Oui, c'est embêtant parce qu'effectivement, et les deux ne marchaient pas. Hein, là, c'est évidemment pas que les pilotes. Bon, tu vois, ce qui est ennuyeux, je parlais de la réglementation qui n'avait pas trop impacté les résultats. Bah, malheureusement pour Pierre, si, parce qu'il perd une partie de la puissance, il sait même pas pourquoi, le pauvre. Ça handicape tout son début, et quand tu perds trois places dans le premier tour, bah, je peux te dire que pour les refaire, après, tu fais plus du tout le même Grand Prix, hein. D'ailleurs, j'étais en train de non pas de contrôler, mais de vérifier ce qu'il a fait. Bah, on l'arrête tellement tôt, on l'arrête au 14e. Il part avec les médiums comme tout le monde, mais là, on dit, oula, vu situé où il est, alors qu'il était parti 11e, mais il s'est retrouvé 13, 14e tout de suite, on dit, on va anticiper l'arrêt, on va faire une stratégie différente. Bien joué. On peut pas reprocher à Alpine de faire ça, hein. On l'arrête à nouveau au 39e, Et puis bon, le dernier arrêt, là, il est désespéré. Au 53e, on lui met les softs. Bon, c'est pour rigoler presque. Alors évidemment, il fait un bon temps en tour au global. Ça peut être trompeur, mais parce qu'il a les softs et il n'a plus de carburant. Donc là, le vrai examen, bah, comme tout le monde, hein, ça va être Silverstone. On va voir ce que ça donne et on aura un vrai niveau. Alors moi, je le répète aussi, ça me fait mal au cœur de dire ça. C'est une écurie britannique hein, maintenant, Alpine. Bah évidemment, ouais. Enstone. Donc on va voir ce qu'ils valent à domicile. C'est la même remarque que pour McLaren en fait.
Ouais, Enstone qui nous avait dit virez-nous ce foutu moteur français et on va gagner tous les grands prix.
C'est ça, oui. Ah oui, tu te rappelles de ça aussi. Ouais, oui, ouais, je croyais que ouais.
J'aime bien le rappeler de manière régulière.
Même moi, j'allais dire, même moi, je m'en rappelle, mais c'est peut-être parce que vous me le répétez à chaque podcast.
Ouais, ouais.
Mais c'est très bien.
C'est pas la dernière fois que je le dirais.
Le rappeler. Non, mais en plus, cette bataille dans le midfield, elle est pas mal. Alpine, Racing Bulls, ça se tire la bourre. Il y a des As de temps en temps qui viennent s'immiscer. Même si j'ai l'impression quand même que Alpine et Racing Bulls sont bien en train de se détacher de la concurrence, hein, les gars. Racing Bulls, là, ça fait plusieurs courses qui sont vraiment très très solides et qu'ils arrivent à mettre les deux pilotes dans les points.
Les deux dans les points. Ouais, c'est des pilotes de talent.
Il y en a un qui s'est fait détruire par la lessiveuse Red Bull, puis qui s'est tranquillement reconstruit un peu à la manière de Pierre. Et puis le petit Lindblad, lui, on a l'impression aussi d'être sur un crack, quoi.
Ça, c'est une pépite, ça, je peux te dire.
Et Audi, qui n'était pas loin de marquer des points, faut le dire, parce qu'ils n'en ont marqué que deux depuis le début de la saison. Bortoleto et Hülkenberg, qui terminent 11 et 12. Il y a quand même un gap hein, avec les Racing Bulls, mais bon, voilà, Audi qui peut faire des coups des fois sur quelques Grands Prix. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. On l'a bien débriefé, ce Grand Prix d'Autriche. Hein.
On n'a pas parlé ni d'Aston ni de Cadillac, c'est normal. Bon, allez, la prochaine fois, c'est promis.
Mais pourquoi tu veux parler de la F2 alors, c'est un peu...
Non, mais vous savez ce qu'on va se faire.
C'est dur.
C'est un podcast.
Non, les pauvres, ils se donnent du mal, moi, je te dis.
Ah oui, ça va
respect
venir,
juste
ça va
parce que je peux dire qu'ils sont tristes. Bah, le pauvre Fernando, hein, vous avez lu et entendu ses déclarations comme
oui,
moi.
Oui, mais mon Jean-Luc. T'as raison, mais je pense qu'il va falloir qu'on se le fasse. Alors, soit dans un débrief, soit dans un warm-up, on a le temps pour se le faire. Mais quand même, le débat Aston Martin, Cadillac, est-ce honteux pour la Formule 1, l'image qui est renvoyée, moi je trouve que ça se fait. Parce que quand tu termines à 3 tours, alors Cadillac ils viennent d'arriver, ok, voilà, mais tu termines à 3 tours, t'es Aston Martin, t'as Fernando Alonso à ton volant.
Mandico, là, le mot honteux pour moi, c'est pas le bon, si tu me permets. Hein. Est-ce que effectivement, ce manque de performance est regrettable et critiquable et tout ce que tu veux. Bon, ils ont tellement dit, et Adrian Newey, mais tu vois, tellement de respect pour Fernando et pour Adrian que je peux pas les jeter aux orties, je te jure. Hein. Et c'est pas possible. Alors, je sais bien, eux. Inversement à toutes les autres écuries, ils vont sortir une nouvelle machine à la rentrée. Alors là, effectivement, il vaudra mieux que ça marche, hein, parce que là, sinon, là, ce sera honteux. Là, le mot honte, tu pourras le prononcer, à mon sens. Si jamais la nouvelle mouture, alors qu'Adrian Newey doit travailler comme un fou là-dessus, n'est pas au niveau et n'a pas recollé au peloton, là, oui, ce sera une honte. Là, je suis d'accord avec toi. Peut-être pas pour le moment, si tu me permets. Hein. Quant à Cadillac, il débarque. Non, non, mais on est là pour en parler, comme on dit toujours. Hein. C'est le débat qui est intéressant. Quant à Cadillac, il débarque. Bon, là aussi, ce qui me gêne un petit peu, je crois qu'il y a un loulou qui adore un certain Bottas, mais c'est qu'il se fait un peu trop régler par Pérez, à mon avis. Mais bon.
Oui. Non, mais on reste lucide. Hein. On adore Valtteri, mais. On a vu le meilleur de Valtteri déjà il y a bien longtemps.
Ah bah on est d'accord.
Je sais, alors,
quand il était pilote de Formule 1, tu veux dire.
C'est ça, maintenant il est plus Gravelman, influenceur, tu vois, c'est un tout quoi.
Influenceur mulet. Non, mais,
est-ce que c'est le look, voilà, est-ce que c'est look
la dernière vidéo que j'ai vue là, il était en train de présenter sa maison en Australie avec sa femme. Enfin vraiment, il a lâché la rampe. J'adore.
Il y est plus. À mon avis, il va partir à la pêche en tout temps. Ouais.
Mais moi, à chaque fois que tu viens dans le podcast, Louis, moi je veux un point people Valtteri Bottas. On va instaurer cette chronique.
Y a pas de problème.
Tu vas nous le faire.
Ça sera un plaisir.
Tu vas nous l'écrire. Tu vas nous mettre du son. Ça va être exceptionnel.
Je vous la ferai en finnois. Vous allez voir.
Oui.
Je veux bien. Ah, ça serait très bon. Non mais par contre là où je voulais et après on termine sur ça Cadillac ok ils découvrent la Formule 1 ils viennent d'arriver nouvelle réglementation c'est compliqué de mémoire la dernière écurie qui a débarqué en F1 c'est Haas si je ne
2016,
dis pas de
crois,
bêtises
ouais.
J'avais quand même la sensation que Haas était arrivé alors contexte différent et tout ça
réglementation différente
mais Haas sur sa première saison marque des points est capable d'avoir une voiture qui est performante, tu vois. Donc je dis pas que ça bosse mal chez Cadillac, mais bon, c'est pas le, c'est pas la même entrée en matière que Haas, quoi.
Ouais, ouais, mais bon, Haas 3-4 ans après, ils étaient à 2 secondes. Enfin, tu vois, donc c'est peut-être que bon, peut-être que Cadillac dans 2 ans, ils seront dans le coup. On sait pas, mais c'est vrai que je pense que c'est la pire des réglementations pour débuter, en fait, pour arriver. Ah, oui, elle est tellement complexe. Ils s'arrachent tous les cheveux, même ceux qui sont là depuis depuis 40 ans et qui connaissent tous les recoins de tout dans F1. Donc c'est vrai que quand t'es nouveau, mais ça, en tout cas, moi c'est un truc qui me plaît de les regarder, même si pour l'instant bon, on s'y attarde pas, mais de les voir progresser, tu vois, c'est quand même, ils partent de rien, quoi, c'est stylé, ça.
Ouais, puis ils sont un peu moins loin. Hein,
un peu moins nul.
Et ouais, non, mais attends,
mais
franchement,
oui, non, mais,
l'écart n'est pas choquant, n'est pas ridicule. Là aussi, je regarde les perfs en reparlant. Non, ils sont derrière, mais c'est pas un gouffre, hein, par rapport à Sainz et Albon, les pauvres. Tu vois, on n'a même pas dit un mot de Williams. Bon, bah allez, décidément, il y a des rallonges, mais ils sont pas si loin que ça. Tu vois, c'est pas ridicule. Hein. Ils sont à aller 5 gros dixièmes. C'est pas la honte, alors que les pauvres d'Aston, ça c'est une autre paire. Une paire de manches. Ouais.
Bon, les amis, on se retrouve dès jeudi, warm-up de Grand Prix du Grand Prix d'Angleterre, Britannique.
Ouais, la bataille d'Angleterre.
Voilà, bataille d'Angleterre à Silverstone. Moi, je vous dis à dans quelques semaines. On va couper un petit peu en vacances, mais bien évidemment, toute l'équipe va faire le taf. Vous allez avoir des podcasts dans tous les sens. Le casting est déjà prêt. Tout le monde va nous régaler. Je vais vous écouter avec beaucoup de plaisir. Je vous dis à très vite. Et puis rendez-vous dès jeudi pour ce warm-up. Puis lundi prochain, le débrief de Silverstone. Bye bye, ciao.
Salut mon Nico, salut à tous.
Ciao tout le monde.
Le paddock RMC.